Buddy, you bay, did it if a yam, the Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Shalom Aleichem, bonjour à tous.
Bonjour.
Voilà, avant de commencer notre émission, je voulais quand même rappeler le souvenir de l'attentat du 11 décembre 2018 et aussi dire que j'ai assisté à un concert. Donc il y a eu dimanche dernier un concert organisé par l'association des larmes au sourire, Strasbourg des larmes au sourire, qui a eu lieu au PMC, dans la salle Erasme. Alors, nous ne vous avons pas prévenu de ce concert parce que je n'étais pas au courant. Je l'ai découvert très tard, par hasard, et j'y suis allée. Et donc, c'est pour rappeler la mémoire des personnes qui ont perdu la vie. Alors, nous, dans l'association Le Théâtre en l'air, nous avons bien connu Bartek, donc Barto Pedro Oren Niedzielski, dit Bartek, qui a participé à nos spectacles, qui nous a beaucoup aidés lors des universités d'été et qui était quelqu'un de très charmant, de polyglotte, toujours prêt à aider, à accueillir des gens, tout à fait charmant. Et je rappelle aussi la mémoire des autres qui ont perdu la vie. Alors, on voit vraiment que Strasbourg accueille des gens de partout, puisqu'il se trouve que ces gens étaient vraiment d'origine très différente. Donc, Antonio Megalizzi, un journaliste italien, Kamal Nakhband, un garagiste installé à Strasbourg venant d'Afghanistan, Pascal Verden, un Alsacien, ancien employé du Crédit Agricole, et puis Anupong Suebsamarn, qui est un Thaïlandais qui était venu pour le marché de Noël. Voilà, donc c'était un concert émouvant, et puis nous n'oublions pas Bartek, notre ami Bartek. Voilà, alors on va revenir à Odessa, donc pour parler d'Odessa aujourd'hui. Dans l'ouvrage toujours d'Isabelle Nemirovski, Histoire, mémoire et représentation des Juifs d'Odessa. Donc c'est, une fois qu'on parle du présent, évidemment, il y a une mosaïque de choses. Il n'est pas toujours facile de reconstituer exactement ce qui se passe. Donc en fait, à Odessa, on peut dire qu'il y a... Il y a deux aspects, c'est-à-dire l'aspect renaissance revivissance du passé. Et puis, il y a d'autres personnes qui trouvent qu'au contraire, la ville a perdu tout son charme, a perdu son âme, et en perdant...
Sa population aussi.
Et sa population, oui. Ses juifs en particulier. Alors, c'est vrai que j'ai parlé la dernière fois du massacre des juifs d'Odessa par les Roumains en particulier, par les armées roumaines, qui ont vraiment présenté un autre aspect que celui que nous avions vu dans la chanson Roumaine. Et d'ailleurs, les Juifs, voyant arriver les Roumains, au début n'ont pas eu peur, parce qu'ils disaient les Roumains, c'est des gens qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien faire des...
La fête,
voilà.
Sur le dos des Juifs.
Oui, c'était pas la fête, c'était l'horreur totale, et donc avec des massacres énormes. Et donc voilà, après, historiquement, il y a la création de l'Ukraine, à partir de 1991, et là... disons, une certaine libéralisation de tout, et en particulier des Juifs. Et donc, avec des personnes qui arrivent, qui vont essayer de recréer la communauté juive...
Qui arrivent d'où alors, d'Israël ou...
Oui, d'Israël peut-être, mais même de Russie, de Russie, d'Ukraine. En fait, il y a des Juifs ukrainiens... Et en particulier, la communauté, comme souvent, ce sont les Chabad qui vont faire revivre la communauté. Voilà, donc moi je vais croiser ça avec mes propres souvenirs, puisque l'association Valisquet organise des voyages en Ukraine, et en particulier à Odessa. Et notre voyage s'est passé en 2011. Et donc, d'ailleurs, Isabelle Nemirovski parle de ses voyages de Valisquet. Elle parle de André Kosmicki, que je connais très très bien, qui est qui dirige ses voyages. Et donc, je vais un petit peu vous lire les notes que j'avais prises lors de mon premier voyage en... de mon voyage à Odessa. Mon premier, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en relisant mes notes qu'on est allé deux fois à Odessa, c'est-à-dire on est parti de Paris, on a atterri à Odessa en avion, et puis après on est revenu. Donc je vous lis un petit peu mes notes, donc voir l'approche donc de quelqu'un, mais ça fait déjà 11 ans, hein, entre-temps la situation a encore changé. Hein. Il fait beau avec du vent. Début de printemps, tous les arbres ne sont pas encore feuillus. Il y a des marronniers, des platanes, des acacias. Alors, les acacias sont vraiment les arbres modèles d'Odessa et qui ont été plantés au début de la création de la ville. Nous longeons l'ancien quartier juif, petite maison à un étage, bien construite mais non entretenue. On aperçoit des cours, on sent l'ambiance des Elminiens. Alors, les Elminiens, c'est un texte qu'a écrit Moïse Koulba, qui ne se passe pas à Odessa, mais où il y a comme ça il y a en particulier une cour. Voilà, donc ces cours où les maisons tout autour ont des coursives et on sent vraiment que il y avait une vie dans ces cours avec les gens qui habitaient tout autour et qui et le Shabbat on fermait les cours il y avait une porte qui permet de porter, hein, les gens pouvaient porter des choses dans la cour, les enfants pouvaient jouer dans la cour. Voilà, donc ensuite nous arrivons à l'hôtel qui est l'hôtel Aivazovski, qui est une maison ancienne, restaurée, avec des décorations en stuc. Il y a des ajouts en bois, comme des maisonnettes sur les balcons et sur les toits. Ensuite, nous retrouvons devant l'hôtel deux Françaises, mère et fille, venues sur les traces de leur famille. Donc ça, c'est aussi assez caractéristique d'Odessa, où les gens viennent retrouver les traces de leurs ancêtres. Nous allons vers la synagogue. On longe de très belles maisons décorées de stuc. Celles qui sont rénovées abritent des chaînes internationales. Nous passons devant la synagogue Brodsky, qui abrite maintenant les archives. C'est aussi noté dans le livre d'Isabelle Nemirovski. C'est la première à avoir pris le rite réformé. Le rabbin Shimon Schwab Acher était à Maskil. Il a fondé Troude, un équivalent de l'Ordre, et il a fondé aussi la Société des artisans. Ensuite, c'est une ville très moderne, très active, berceau du sionisme. Oui, alors, il y a un mélange entre ce que j'ai remarqué et puis ce qu'on m'a dit, hein, puisque André nous donne toujours des informations. Il reste deux synagogues, la Schneiderschul, qui est maintenant où il y a les Lubavitch. Il y fait un soleil superbe. Et donc, nous mangeons au sous-sol de la synagogue. Donc, je vous donne le menu. Une sorte de purée de haricots avec des oignons, une salade tomate-concombre, du poulet en papillote et des frites et un strudel aux griottes. Vous voyez que je mets tous les détails. Et donc, c'est la renaissance de la communauté, en particulier, comme je vous ai dit, avec les Lubavitch, qui vraiment essayent de refaire vivre la vie à Odessa. Pardon. Alors, visite de la synagogue, que je trouve trop bien rénovée, rutilante, avec un plafond de mosaïque qui fait comme des vagues. Nous repartons dans le soleil qui baisse. La ville est superbe, avec des bâtiments de stuc construits par le petit-neveu de Richelieu. Voilà, vous voyez que j'ai les éléments historiques. Magnifique opéra, inspiré de l'opéra de Vienne. Nous voyons aussi les banques, la Banque nationale d'Ukraine et une banque privée qui appartenait à un juif. Voilà, c'était sans doute la banque Efroussi. Derrière l'opéra, une belle maison rénovée avec des appartements à vendre. Ensuite, des maisons en mauvais état, habitées. Nous entrons dans une cour. Il y a un petit jardin et tout au fond, un poulailler avec un dindon. un groupe de jeunes mange sur une terrasse, le tout est désordonné. Voilà, c'est aussi ce que remarque Isabelle Némirovski, c'est-à-dire qu'il y a une alternance entre des quartiers rénovés qui font très chic et puis des endroits qui restent encore vraiment à l'abandon. Hein. Mmh. Voilà, donc on repart vers le port, on passe devant la statue de Catherine II, sans doute boulevard Pomorski, et puis un beau bâtiment de stuc. On débouche sur le fameux escalier Potemkin qui donne sur le port. La vue est gâchée par une grande tour moderne. Le port est industriel avec des grues, des engins qui tournent au ralenti. Nous passons sur la croisette, donc le boulevard Pomorski, devant un hôtel. En face, des vestiges de la ville grecque. Oui, donc il y a encore des vestiges archéologiques de la ville grecque. Voilà. Et là, nous rentrons et le lendemain, nous partons. Et donc, j'ai noté, à l'aller comme au retour, qu'on traverse cette plaine ukrainienne très, très longue et où il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est un peu monotone. Et ça, c'était toujours noté aussi que pour arriver à Odessa, on faisait des kilomètres
Mais c'est le grenier à blé de la... De l'Ukraine.
Oui, c'est le grenier.
C'est sa richesse aussi.
Oui, c'est vrai.
Et ce sont ces terres fertiles. Tchernosium,
oui, absolument. Russes, mais des terres noires, oui, mais c'est vrai. Mais en même temps, il y a des
kilomètres.
Oui, voilà, le touriste s'ennuie un peu. Il y a des kilomètres sans rien. Et alors après, il y a des petites agglomérations, mais vraiment très très petites. Et donc c'est quand même vraiment un long voyage. Oui, bien sûr, dans la campagne, on peut dire.
Oui. C'était en quelle saison que tu y étais ?
Alors c'était au printemps, et c'est vrai que
saison.
Qu'est-ce qu'il disait ? Printemps en Crimée, oui, c'est ça. Donc c'était, on avait de la chance vraiment. Il a fait un temps superbe et c'était le printemps. Voilà, ben on va peut-être arrêter ces souvenirs pour écouter un disque.
Alors puisqu'on parle de Odessa contemporain, j'ai un coffret de musique klezmer. Il a déjà quelques années, date de 2007, je crois, quelque chose comme ça, 2005-2007, où il y a un premier CD avec tous les groupes américains, le deuxième CD avec tous les groupes, enfin plusieurs groupes européens, dont l'Odessa Klezmer Band. Voilà, il fallait ça. Et c'est, le morceau qui est joué là est parmi les plus connus, Yiddle Mitten Fiddle, voilà, tout le monde connaît ça. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ça a été enregistré en Ukraine par le cantor de la synagogue qui chante aussi des fois qui batifole avec des airs plus légers que la liturgie.
Über Felder, Wegen, Eufa, Wogen, Hei, mit Sonn und Wind und Regen, fuhren Klezmer zwei. Ach, Hiddisch, oi, ach, Hiddisch, such für seinen Sei. Jittel mit dem Fiddel, Arie mit dem Bass, das Leben ist ein Liebel, wo sind seine Kass. Hey, Jittel mit dem Fiddel, hey, das Leben ist ein Spaß. Jittel mit dem Fiddel, Arie mit dem Bass, das Leben ist ein Liedel, doch wohl sein im Gast. Hey, Jittel mit dem Fiddel, hey, das Leben ist ein Spaß. Atzig steht bei der Schlanke und meckert reurig im Meer. Hey, Atzig, du Schweine, so reurig sein ist fair. Ach, Hockel, das Berdel, Dacke, Dacke, Fäh. Jittel mit dem Fiddel, Arie mit dem Bass, das Leben ist ein Liedel, doch wo sind seine Gast? Hey, Jittel mit dem Fiddel, hey, das Leben ist ein Spaß. Ein Vogel flieht gut morgen, morgen ein gut Jahr, der Treue und die Sorgen zu all des schwarzen Jahr. Dem Wind auf die Bonne und jeder fahr. das Leben ist ein Lied, wo du sei nicht kannst. Hey, jitte, bitte, bitte, hey, das Leben ist ein Spaß. Jitte, bitte, bitte, Aria, bitte, Bass. Das Leben ist ein Lied, wo du sei nicht kannst. Hey, jitte, bitte, bitte, jitte, bitte, bitte, jitte, bitte, jitte, bitte, bitte, hey, das Leben ist ein Spaß. Hey!
Voilà, un grand classique que nous chantons aussi dans notre chorale, l'Omerzigan.
Qui ne chante pas ça?
Mais il est vraiment incroyable. Oui, toujours à la mode.
Il a la frite, ce cantor, là. Il est super quand il fait ça.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très joyeux, comme ça doit être. Voilà, bah écoutez, je vais reprendre mes souvenirs. Donc là, nous retournons à Odessa, en fait, à la fin du séjour. Et voilà, et nous avons eu une visite avec Elena Karakina, que cite aussi Elisabeth, Isabelle Nemirovski. Oui, oui, et qui est vraiment une des guides et une des grandes connaisseuses de cette ville.
D'accord. Hein.
Voilà, donc on s'arrête devant la synagogue Brodsky, que nous avons déjà vue. Les Juifs de Brod étaient des commerçants, des maskilim qui ont dynamisé la ville. Voilà, ça c'est ce qu'on avait aussi déjà dit dans les précédentes émissions. Elle nous parle de Novakovski, un chanteur et compositeur qui a officié 50 ans, dont parle aussi Isabelle Nemirovski. Et puis après, il y a une phrase. Pourquoi est-ce que les chanteurs sont si bons à la synagogue et si nuls à l'opéra? Voilà, donc ça fait... Ce sont les Chazanim qui essayent ensuite de faire une carrière à l'opéra et apparemment, ça ne marche pas. Ah. Alors, il y a aussi l'école Trude, dont j'avais aussi parlé, qui fabriquait des canalisations et des fers à repasser. Puis la maison natale de Jabotinsky avec une plaque et un petit monument. Nous sommes passés aussi devant le commissariat, installé dans une grande maison, une magnifique maison, une maison bourgeoise. Et après la Révolution, c'était le siège des organisations juives de jeunesse qui ensuite étaient dissoutes. À côté, un petit musée avec une sculpture en bronze d'un beau jeune homme en uniforme avec des bottes, avec des colombes qui volaient autour de lui. C'est un policier juif, David Mikhailovich Courland, qui a lutté contre la mafia après la guerre. Et cela a donné un film, Liquidation, où il porte le nom de Gottesman. Alors ça, je ne l'ai pas trouvé dans le livre d'Isabelle Nemirovski. Je ne sais pas de quel musée il s'agit. Puis nous allons à la maison de Jabotinsky avec une plaque à la mémoire. Et Elena nous raconte la vie de Jabotinsky qui effectivement a passé les premières années de sa vie à Odessa avant de partir pour Israël et d'avoir un rôle très important là-bas. Donc cette maison est une maison typique avec un hall d'entrée en mauvais état, des boîtes à lettres éventrées. Ensuite, il y a une cour dépotoir, des petits escaliers en colimaçon, et c'est dans ces cours qu'on sent l'âme du passé, tout à fait, oui. Puis nous allons à la maison de Sholom Aleichem, deux maisons semblables, l'une très bien restaurée, l'autre en mauvais état, puis la maison de Dubnov, le grand historien, puis celle de Bialik, et il y a des plaques partout. Nous passons peut-être aussi devant la maison de David Oistrakh, en tout cas nous voyons une très belle cour avec des coursives en bois. Puis nous passons devant la synagogue Lubavitch. On reste longtemps à écouter les explications. Bon,
tout ça, c'est dans le même quartier, quoi, tout près.
Oui, tout ça, on a fait à pied. Et voilà, donc la guide nous parle de la corruption, des lois du commerce qui écrasent les gens modestes. Nous nous rendons ensuite dans le Musée national de la littérature, oui, dont parle longuement Isabelle Nemirovski, rue Lazaronovska. C'est un ancien palais du prince Gagarine. L'architecte est Ludwig Otora, 1842. Nous sommes dans la salle d'or, très bien restaurée, et nous écoutons là un concert avec un très bon jeune violoniste. Puis une collation avec de très bons harengs et de petites tomates. Nous regardons une salle avec les œuvres et les portraits des grands classiques russes, mais on ne peut pas lire les panneaux. Oui, c'est ce qu'elle dit, tout est toujours en russe et en ukrainien, donc on peut pas, ce n'est pas accessible aux autres. Et aussi, elle fait remarquer que dans le musée de la littérature, il n'y a pas les œuvres, enfin les écrivains juifs, parce qu'ils avaient été considérés à l'époque russe comme, à l'époque soviétique, pardon, ils avaient été considérés comme sionistes. Donc, il n'y a pas d'écrivain juif dans ce musée. Puis nous allons à la Philharmonie. Là, nous allons écouter des mélodies pour ma maman. Mais au lieu de chant, il y a un interminable discours d'un type très sympathique, mais où on ne comprend rien.
En russe ou en
ukrainien. Oui, en ukrainien ou en russe. Alors ça, je ne saurais pas dire. Hein. En tout cas, pas ni en anglais ni en français. Bon, ensuite, nous prenons la fuite à l'entracte. Puis nous allons dans le centre, dans un restaurant. Il y a des danses folkloriques. À la sortie, nous rencontrons un jeune noir qui tient un kiosque à fleurs. Alors ça, tout d'un coup, je me suis rappelée, parce que tout le reste, je dois dire que j'ai un peu oublié. Il parle français et il est un peu étonné de notre intérêt pour lui. Puis nous allons à l'opéra, le fameux opéra, là, construit par Fellner et Elmer en 1887, tout à fait comme le Palais Garnier. On écoute Lucia de la Mer Mort dans un décor rétro avec un jeu d'acteurs rétro, mais la musique reste. Et ensuite, à la sortie, je ne retrouve pas le groupe, j'arrive à me perdre. Et par contre, je passe devant le café Fanconi, ce café où était le Menachem Mendel, hein, le héros de Sholom Aleichem, qui écrit à sa femme, j'étais au café Fanconi, on commande quelque chose et puis après il faut de nouveau commander des glaces. Et c'est là que sa femme lui écrit, mais ce Fanconi, c'est un il ou c'est un elle?
C'est
un yel, voilà, elle est jalouse. Et ensuite, je rentre, voilà. Donc ça, c'était...
T'as retrouvé le groupe quand même.
J'ai quand même retrouvé... Non, j'avais un plan, je m'admire moi-même. Ouais. J'avais le plan et grâce au plan, j'ai retrouvé l'hôtel toute seule et je suis rentrée. Voilà. Donc je vais peut-être terminer cette évocation de Odessa par quelqu'un qui a vécu, qui s'appelle... C'est Irène Némirovski, dont je n'ai toujours pas réussi à retrouver quel est son rapport avec cette Isabelle Némirovski, qui ne le dit pas. Et donc Irène Némirovski a des parents dont le père s'appelle Léon, qui n'est pas né à Odessa, mais sa mère, Fanny, ou Feigele, est née à Odessa. Par contre, la famille n'a pas vécu à Odessa, mais à Kiev. Et après, le père était très riche. Après la Révolution, la Révolution russe, ils sont venus à Paris parce qu'ils étaient en grand danger. Et Irène Némirovski a écrit une œuvre où les Juifs apparaissent souvent sous un aspect assez négatif.
Oui.
Mais dans son livre qui s'appelle David Golder, qui parle d'un financier juif très riche, et qui est en fait originaire d'une ville sur la mer Noire. Elle ne donne jamais le nom, mais pour Isabelle Némirovski, c'est Odessa, et où il va retourner finalement mourir. Et donc, il rencontre un jeune juif, et c'est là qu'il va achever sa vie dans cette ville dont il est sans doute originaire, ben, si ce n'est pas dit clairement. Voilà, et donc, on sait que Irène Némirovski a eu un sort tragique, puisqu'elle a été arrêtée en 1942 et déportée, qu'elle est morte. Par contre, ses deux filles ont survécu, les filles étaient cachées. Elles sont décédées toutes les deux. Et voilà, et donc, on termine par cette évocation d'Odessa qui reste finalement dans le souvenir, dans la nostalgie des gens qui y ont vécu. Et la prochaine fois, on parlera de la musique d'Odessa. Et là, nous allons terminer par une musique.
Je croyais que tu voulais lire un extrait, non?
Oui, peut-être que je peux lire peut-être ce que dit... ce que dit Jabotinsky, oui, elle termine. Alors, excusez-moi. Bon, peut-être je lis ce que dit Isaac Babel. À partir des boutiques, des gens, de l'air, des affiches de théâtre, je me composais ma ville natale à moi. Aujourd'hui encore, je m'en souviens, je la sens et je l'aime. Je la sens comme on sent l'odeur de sa mère, de ses caresses, de ses mots et de ses sourires. Je l'aime parce que j'y ai grandi, que j'y ai été heureux, triste, et que j'ai rêvé avec une passion qui ne reviendra plus. Oui, je vais peut-être lire aussi, voilà, c'est ça que je voulais lire en fait, ce qu'écrit Jabotinsky en 1935. « Je ne reverrai sans doute jamais Odessa. Dommage, je l'aime. La Russie me laissait indifférent dans ma jeunesse. Je m'en souviens, je sautais de joie quand je partais pour l'étranger. Mais Odessa, c'est autre chose. Dès que j'approchais, je jubilais. Jadis, j'ai été amoureux de Rome, et longtemps, mais cela m'a passé. Odessa, c'est autre chose, ça n'a pas passé et ne passera pas.
On peut en rester sur cette idée que Odessa, c'est autre chose. C'est ni la Russie, ni l'Europe, ni... C'est
oui.
vraiment à part.
Oui, exactement, c'est à part. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, qu'effectivement, il y a une ambiance et il y a une mentalité tout à fait particulière des Odessites. Alors, est-ce que cette mentalité a survécu? C'est un peu ça la question, mais voilà, oui, tout à fait, c'était
parce que dans les descriptions de ton voyage, là, je pensais à Saint-Pétersbourg, où je suis allée, moi, après. Là, le côté bien refait, trop, sur la surface, quoi, là où passent les touristes, et puis dès qu'on s'aventure dans les cours, ou un petit peu à l'arrière, plus du tout, le côté délabré. C'est cette alternance, quoi, de renouveau et de délabrement. Je pensais à ça. Mais, et puis, Saint-Pétersbourg est une ville magnifique aussi, artificielle, aussi artificielle que Odessa. Mais là, c'est encore autre chose. Je ne sais pas, peut-être beaucoup le climat, quoi, hein, sa situation.
Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'était un climat très agréable, et ce qui explique aussi le développement très rapide une fois que ça s'est fait, quoi.
Oui. Bon, encore le temps termine avec rapidement, même si on ne passe pas en entier. Donc, c'est ces fameux goyim que j'adore. Donc, déjà, rien que dans leur titre, hein, les goy, voilà, qui se permettent de faire de la musique juive, mais ils ont bien raison. Qui jouent une Odessa Bulgare, donc une danse qui vient de Odessa.
Et on vous dit Shalom Aleichem et joyeux Hanouka.
Oui.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.